Gloire à Dieu, nous entamons ce que on appelle le quatrième livre des psaumes. Ça commence à partir du psaume 90. Quatrième livre des psaumes, psaume 90, voilà, qu'on appelle aussi la prière de Moïse, voilà, homme de Dieu, comme c'est précisé, prière de Moïse, homme de Dieu. Et voilà, c'est peut-être... le seul psaume de Moïse, ou bien il y en a deux ou trois, mais bon, c'est pas beaucoup.
Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains.
Gloire à Dieu. Voilà, c'est un psaume très connu qui nous enseigne à réaliser la brièveté de notre vie, et alors que Dieu, lui, il est éternel. Donc, ce psaume nous apprend que notre vie est courte. Et un des passages le plus important, c'est quand il dit « Enseigne-nous à compter nos jours ». Quand on sait qu'on a peu de temps, il faut qu'on utilise chaque moment d'une manière efficace. Il faut qu'on sache compter, réaliser que chaque jour est important, réaliser combien ça passe vite. Donc il y a un autre passage qui dit, ça passe trop vite, ça passe vite au verset 10. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Ça passe très vite, hein, notre vie. Et d'ailleurs, rien que ça, ça devrait être un élément qui nous encourage à être humbles. Le fait que le nombre de jours que nous vivons sur Terre passe vite, même si il peut se faire que nous occupons des rôles majestueux, des rôles éminents, mais le fait que ça passe vite doit nous ramener à l'humanité, à l'humilité. C'est ça le thème de ce psaume. Apprends-nous à compter nos jours. Et ce psaume aussi nous montre que au verset, le temps tel que Dieu compte, ce n'est pas de la même manière que nous. Parce qu'au verset 4, c'est écrit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. » Une veille de la nuit. On nous montre que Dieu a des mesures qui ne sont pas comparables aux nôtres. de sorte que ce que nous, on peut trouver très long, comme 1000 ans, pour Dieu, c'est rien, c'est comme un jour. Voilà. Comme un jour. C'est ce qui peut expliquer que parfois nous pensons que une souffrance dure longtemps, ou bien une époque dure longtemps, où il y a un dictateur, où il y a voilà, des événements. Mais Dieu n'a pas cette façon-là de voir. Dieu, voilà, on nous donne une comparaison sur lui. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Voilà. Il faut que, lorsqu'on pense à Dieu, qu'on pense aussi à sa façon de voir. Il ne voit pas les choses de la même manière que nous, mais sa façon de voir est beaucoup plus efficace, parce que lui, il voit les choses d'une manière globale, éternelle, alors que nous, on regarde à notre vie et on juge les choses en fonction de ce que nous vivons. C'est une erreur. C'est pourquoi on nous dit, attention, tes jours sont comme un jour, 1000 ans pour toi, ça peut être comme un jour devant Dieu. Voilà, ne surestimons pas nos jours. Voilà le conseil qui nous est donné. Alors que Dieu, lui, il est éternel, de génération en génération, il est là. Il y a le verset 2 qui dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Rien que ça devait suffire pour nous convertir à Dieu, nous ramener à lui. La brièveté de notre durée sur terre et le fait que éternellement on parle de Dieu. Tout le temps on parle de Dieu, ça devait nous réveiller. C'est en lisant de tels textes que je me rends compte que la conversion ne peut jamais venir de l'intelligence. Jamais. Parce que si on doit suivre l'intelligence et l'expérience, ce texte suffit à lui tout seul pour que chaque homme se dise « Je suis petit. » Parce que ma durée sur terre est très courte. Et après ma mort, les gens continueront à croire en Dieu. Même si moi je peux contester son existence aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas, la foi en Dieu. Les gens continueront à croire. Donc du coup, autant s'humilier, même si on n'a pas de preuves de l'existence de Dieu. Mais cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Les gens cherchent des planètes cachées dans l'univers. Hein? Des morceaux de terre qui tournent. C'est ça que vous cherchez? Vous mettez 20 ans, 30 ans à chercher des planètes alors qu'on devrait chercher notre Créateur. Vous voyez, il y a plein de choses qui deviennent logiques quand on a été éclairé. Nous, on en parle facilement parce qu'on a été éclairé. Et on se rend compte qu'on ne doit pas tomber dans l'orgueil de comprendre tout ça. C'est le don de Dieu. Parce que c'est tellement évident quand tu es éclairé que tu te dis, mais ce texte devait me faire comprendre ça. Mais pourquoi autrefois je ne comprenais pas? Parce que ce sont des choses spirituelles. Il faut qu'on t'ouvre la porte de la compréhension. C'est ça la réalité. Et que le Seigneur nous aide à compter nos jours, à utiliser chaque jour d'une manière efficace pour sa gloire. Et le verset 13 nous dit, « Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. » Jusque à quand ? Et il y a toujours ces lamentations dans les psaumes où les gens crient à Dieu, « Mais Seigneur, viens intervenir. » Donc ne nous privons pas de crier à Dieu. « Seigneur, nous voulons ton intervention. » Nous voulons le réveil. Nous avons attendu longtemps. Agis. Nous devons toujours continuer à prier comme ça. Et au verset 15, on nous dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Donc on doit dire, Seigneur, nous voulons vivre aussi des jours de gloire qui dépassent les jours d'humiliation. On veut aussi ça. Même Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Ne nous privons pas de faire ce genre de prière. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Verset 16, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Verset 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Voilà la prière que nous allons faire maintenant. Seigneur, nous venons prier que tu manifestes ta gloire sur nous et sur nos enfants, que nous expérimentions la puissance du Saint-Esprit qui touche les cœurs, comme du temps de Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il a connu un temps où il prêchait dans le désert, il n'y avait personne. Mais à un moment donné, l'Esprit Saint a commencé à toucher les cœurs. Et les gens sont venus tellement nombreux qu'il a été sévère envers eux, Seigneur. Nous voulons nous aussi expérimenter ce temps où nous verrons ton Esprit agir en fonction de nos lamentations passées, en fonction de nos prières passées, en fonction de nos humiliations passées, pour toucher les cœurs, pour glorifier ton nom, Seigneur. Non pas pour que nous réussissions un prétendu ministère, mais pour que ton nom soit élevé, que ce soit clair que tu es le Dieu de gloire. Voilà notre prière. Jusqu'à quand, Seigneur, devrions-nous attendre? Seigneur, nous avons soif de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Oui.
Oui, question un internaute. 1100 pour Dieu comme un jour. Est-ce que l'on peut comprendre par là que les jours de la création pourraient être des périodes de 1000 ans?
La Bible ne le dit pas. Tout est possible. Voilà. Mais la Bible ne dit pas ça. Il y a des gens qui ont interprété les choses ainsi. Mais moi, je me dis ceci. Ce que la science considère des périodes de milliards d'années, nous, on les réduit à 1000 ans. C'est comme si on les réduisait en un jour. Parce que c'est quoi 1000 ans par rapport à des milliards d'années? Si les gens sont tellement dépassés par la rapidité d'un jour, pour dire peut-être c'était des jours de 1000 ans, mais qu'est-ce que c'est que 1000 ans pour justifier des choses que la science prétend durer des milliards? Moi, je pense que la version de « il y eut un soir, il y eut un matin » est beaucoup plus important de considérer que c'est un jour. C'est écrit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Voilà. Donc, on ne nous dit pas qu'il y eut une période. S'il y eut un soir, il y eut un matin, moi, je considère que c'est vraiment un jour. Voilà. Le psaume 91, même les païens connaissent un peu quelques lignes de ce psaume. C'est le psaume de la protection. Voilà. Donc, mais là, attention, la protection du juste, quand même. Voilà. Nous lisons le psaume 91.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Alors, je veux qu'on s'arrête sur le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Nous vivons dans une époque où la plupart d'entre nous ne connaissons que du béton, voilà, des appartements, du béton, des avions, des aéroports. Les gens n'ont peut-être pas encore vu, n'ont jamais vu ce que c'est que un oiseau attrapé par un filet. Il faut s'imaginer les choses. Il faut s'imaginer les choses. Un oiseau, c'est un être qui, je dirais, est le plus libre parmi tous les êtres vivants sur Terre. Parce que l'oiseau peut aller dans l'eau, l'oiseau peut marcher sur Terre et l'oiseau peut voler dans le ciel. C'est l'être, c'est la créature, c'est l'animal le plus libre sur Terre, l'oiseau. même, je dirais même plus que l'insecte, parce que l'insecte est limité par l'eau quand même. Alors que l'oiseau n'est pas limité par l'eau, il est limité par rien du tout. Alors imaginez maintenant la créature la plus libre qui se meut partout, être bloquée par un filet. Quand on dit le filet de l'oiseleur, c'est-à-dire que finalement les ailes de l'oiseau s'empêtrent dans le filet. Du coup, elle peut pas bouger. Elle traîne, c'est une scène très difficile pour avoir, et ça doit être très difficile pour un oiseau d'être empêtré comme ça dans le filet de l'oiseleur. Esclave, bloqué. C'est la sensation aussi que nous, on peut ressentir à un certain moment, ou alors que nous ressentions, que beaucoup de païens ressentent, piégés par beaucoup, toutes sortes de choses de la chair, toutes sortes de péchés. On peut être empêtré dans des traditions, dans des systèmes, et tu es bloqué, tu ne bouges pas. Mais la parole nous dit, Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir quelqu'un qui était empêtré dans l'alcool, la cigarette, toutes sortes de choses, puis Dieu se révèle à lui. Il est délivré, comme je crois que j'ai déjà lu, peut-être j'ai lu ça en Guyane, le témoignage d'Ernesto qu'on retrouve dans le site de notre frère Jean-Michel, dans le site regard.eu.org. Voilà, y a le témoignage d'Ernesto qui était empêtré dans les drogues et l'homosexualité. Et quand on est empêtré comme ça, on considère même que Dieu n'existe pas, ou bien qu'il est méchant, ou bien qu'il ne veut pas de nous. Surtout que notre conscience aussi nous reproche notre état de péché. On est vraiment empêtré. C'est comme le filet de l'oiseleur. Tes ailes sont dans le filet, tu ne bouges pas. C'est compliqué de telles situations. Et puis, il entend la voix de Dieu. Dans un moment de désespoir, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es celui que moi j'ai créé. Voyez, lui devait se dire, je suis homosexuel, de nature, je suis condamné, je suis différent des autres, je suis banni à jamais de la présence de Dieu. Et la voix lui dit, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es ce que moi j'ai voulu. Ce que moi j'ai un plan pour toi. C'est mon plan qui compte en quelque sorte. Je paraphrase quoi. C'est comme si on te dit, mais non. Tout ce que tu penses être homosexuel, banni de Dieu, esclave de la drogue, déchet dans l'humanité, mais tu n'es pas tout ça. Tu es ce que moi j'ai décidé que tu sois. J'ai un plan pour toi, en quelque sorte. Quand il entend ça, il est libéré. Ah, mais Dieu libère du filet de l'oiseleur. Voilà. N'hésitons pas, je répète toujours, n'hésitons pas à crier à Dieu. Satan va tout faire pour qu'on se taise. On fasse nos conclusions et on se tait. Crions à Dieu. Il est celui qui libère du filet de l'oiseleur. Voilà, nous continuons. Verset 4.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Voilà, donc tu ne craindras pas le Covid, c'est clair. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas ces trucs-là. Aujourd'hui, on voit les églises qui sont transformées en bals masqués. Non, c'est la honte. Nous devons nous être ceux-là qui communiquons la foi. C'est vrai qu'en en étant comme ça, on peut se créer des problèmes. Mais le Seigneur nous a prédit cela. Il nous a dit qu'on sera persécuté. Voilà, ce sont des choses auxquelles on doit s'attendre. Mais l'Église doit être 1 Timothée 3,15. La colonne de la vérité. La colonne de la vérité. On ne peut pas, faire comme les gens du monde. Bien sûr, chacun est libre de mettre le masque, mais nous, l'Église, on ne peut pas préconiser ça. Chacun fait selon les conseils qu'il a entendus de ses médecins ou de l'État. Mais nous, l'Église, on est là pour communiquer la foi. Comment en même temps on lit le psaume 91 et on tremble devant le virus? Non, il y a un problème, bien-aimé, il y a un problème. On n'a pas à trembler devant ces choses-là. Dieu promet qu'il va nous protéger. Il dit la contagion qui frappe en plein midi nous protège. On dit même le terme contagion. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Voilà, même tout ce qui se fait pendant la nuit, il y a des gens, il paraît qu'il y a des avions qui jettent de chemtrails, de traînées chimiques la nuit. Eh bien, nous, ça ne nous fera rien du tout. Ça ne nous fera rien du tout. Malheureusement, il y a des gens, des grands maîtres bibliques, qui utilisent maintenant ce verset pour prendre le vaccin en disant « Eh bien, on sera protégé quand même. » Non. Là, ce verset ne dit pas que tu seras protégé en prenant un produit. Ce verset te dit que c'est Dieu qui te protégera. C'est ça la différence. Donc, tu es libre de prendre ce que tu veux prendre, mais ne mets pas Dieu dans l'affaire. Voilà. C'est la mise au point qu'on veut faire. On est libre, parce que dans tout ça, il faut comprendre qu'en dernier ressort, chacun est libre de faire ce qu'il pense bien pour lui. Donc là, il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne condamne personne, mais il ne faut pas mettre Dieu dans une affaire personnelle et mélanger un verset avec une réalité humaine. Voilà. Ce verset ne dit pas qu'un produit extérieur sera sans effet sur toi, que tu as toi-même volontairement mis, donc tu as accepté qu'on te mette. Voilà. Ce verset te dit que tu seras protégé pour les choses qui viennent de l'extérieur que toi, tu n'as pas voulu, la contagion ou bien la peste qui marche dans les ténèbres. Voilà, bien-aimé, je sais que ce sont des positions difficiles parce qu'il y a des gens, mais il faut se soumettre aux autorités. Oui, mais si la soumission aux autorités contredit notre foi, on ne se soumet pas. Il faut que ça soit clair tout ça, bien-aimé. Nous devrions avoir honte après ce qui s'est passé avec Novak Djokovic, quelqu'un qui a loupé l'occasion d'être le meilleur tennisman de tous les temps à cause de son refus de se to comply, de son refus de se conformer à ce monde. Il a refusé. Je ne sais pas qui il est, s'il est un chrétien ou pas, mais c'est un exemple fort d'abandonner, vous savez comme c'est dit, à quoi ça sert de gagner le monde? Cet homme-là était à la veille de gagner le monde. Donc s'il avait remporté cet Open d'Australie, il devenait le seul à détenir le plus grand nombre de grands chelems. Donc il devenait le plus grand tennisman de tous les temps, depuis que le tennis existe. Donc, il lâche tout ça. Et j'ai lu un article d'un journaliste qui est dépassé. Il est dépassé par l'attitude de Novak. Il dit, mais comment il peut se priver d'une telle gloire? Et voilà, on balance une critique contre les chrétiens. Il doit être, le journaliste écrivait, il doit être encristé dans une secte. Encristé, pourquoi dire le mot encristé? Voilà, c'est des gens qui comprennent que... Et il a dit à le journaliste, il a dit, certainement, il y a une raison qui dépasse sa propre personne. Voilà. Ils reconnaissent qu'il y a une puissance qui est au-dessus, qui soutient cet homme-là pour qu'il puisse refuser une telle gloire. Ben voilà. Soit on croit en Dieu, moi je ne dis pas que je ne le connais pas côté spirituel, je dis mais je reviens sur nous, soit nous croyons en Dieu, nous croyons tout ce qui est écrit, après les précautions d'usage, on fera selon chacun, mais l'Église n'est pas là pour devenir une zone de santé. L'Église est là pour donner la foi aux gens. Voilà, c'est ça notre rôle. Nous continuons verset 7. Oui, question.
Question Internet. Si je comprends bien, on ne doit pas craindre la contagion, mais on peut être contaminé.
Ah, bien sûr, on peut être contaminé. Hein. Ok. Nous continuons, verset 8.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Voilà, est-ce qu'on se souvient de ce passage? Ce passage a été cité par Satan dans Luc chapitre 4. Il a cité ça à Jésus pour dire, tu peux tomber du haut, du pinacle, du temple, mais rien ne t'arrivera puisqu'il y a cette promesse. Voyez, qu'est-ce que ça, Jésus a donné comme réponse? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Une façon de dire, on ne peut pas mettre la pression à Dieu pour accomplir une partie de la Bible, donc l'obliger. On ne peut pas dire, prouve-moi que tu es Dieu, fais telle chose. On ne peut pas faire, on ne doit pas faire ça à Dieu. Pourtant, beaucoup de chrétiens veulent produire des miracles dans une sorte de forcing, en disant à Dieu, mais oui, mais c'est écrit telle chose, alors ça doit s'accomplir. Non, on ne donne pas des ordres à Dieu, on ne tente pas Dieu, on ne fait pas chanter le Seigneur. Voilà, c'est Jésus nous l'a dit dans ce passage-là de Luc 4, et nous voyons d'où c'est tiré. C'est pour nous rappeler que le diable connaît bien la parole. Il connaît bien la parole, il sait comment piéger les gens. Nous devons connaître davantage encore la parole pour savoir réagir. Oui.
Oui, oui, pasteur, quelle différence fais-tu, ou si tu peux nous éclairer, entre la parole qui dit, quand Dieu dit de lui rappeler ses promesses? Est-ce que rappeler les promesses, c'est l'obliger, par exemple, quand on dit, ah mais tu as dit ça dans ta parole, que voilà, qu'il n'y aura pas de femme stérile, par exemple, il n'y aura pas ceci ou cela. Est-ce que ça, c'est obligé ou pas? C'est quoi la différence?
Non, le obligé, c'est quand il y a une forme de chantage, c'est-à-dire que prouve que tu es Dieu en faisant telle chose. Donc, il y a comme une sorte de pression qu'on veut mettre, ou bien alors une pression indirecte, c'est-à-dire on se met soi-même dans une mauvaise situation, alors que c'est pas la situation qui est venue sur nous, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons dans une mauvaise situation. On se dit, il doit agir alors. Mais non, ça c'est pas bon. Ce qu'on peut faire, c'est rappeler et prier et s'attendre à lui. Mais on rappelle ses promesses. D'ailleurs, c'est ça qui est conseillé. Rappeler les Écritures et s'attendre à lui. Mais se mettre soi-même dans une situation mauvaise et dire « Dieu me protégera », ça veut dire que tu lui fais une sorte de chantage. « Je me mets dans une situation mauvaise. Toi, tu avais écrit ça, fais ceci. » C'est une sorte de pression, une sorte d'obligation qu'on veut mettre sur lui. Quoi. Voilà. C'est ça qui n'est pas bon. Mais prier, dire « Seigneur, tu as promis telle chose, je m'attends à toi », ça c'est bien. Oui.
L'internaute de tout à l'heure revient et dit, on ne peut pas craindre la contamination, mais certains chrétiens sont morts de cette pandémie.
Oui, oui, déjà, quand on dit certains chrétiens, ben, il faut vérifier, hein, ce terme-là, ce n'est pas valable pour tous. Hein. Beaucoup n'étaient pas de vrais chrétiens, peut-être Dieu a permis que ça, les choses se révèlent à travers, comment dire, leur mort par cette pandémie. Mais l'autre possibilité, c'est que, tout simplement, c'est que Dieu peut utiliser cette maladie pour te rappeler à lui, comme certains chrétiens, par exemple, ont été tués. Étienne a été lapidé, mais pourtant, c'est écrit là, si on doit aller jusqu'au bout de la logique de notre bien-aimé, au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Mais pourtant, Jésus lui-même a subi des malheurs. Étienne a été lapidé. Donc, ça veut dire que c'est des choses, quand ça t'arrive, c'est permis par Dieu. C'est important, pourquoi ? C'est important parce que maintenant, quand ça nous arrive, qu'on ne soit pas dans un état de défaite, dans un état d'abattement, comme si c'était une défaite. C'est quand même deux choses différentes. Quand quelqu'un subit une souffrance dans un esprit de victoire, ce n'est pas la même chose que quand quelqu'un subit une souffrance dans un esprit de défaite. Parce que quelqu'un qui subit ça dans un esprit de défaite sera découragé, abattu et peut même renier sa foi. Alors que quelqu'un qui vit ça comme étant la volonté de Dieu, il est toujours en forme dans son esprit. La qualité de ses prières ne bougera pas. C'est quelqu'un que Dieu même peut utiliser dans cette maladie-là. C'est quand même important. Oui, oui.
Pasteur, excuse-moi, je reviens encore sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait de défier Dieu. Par exemple, il y a la parole qui dit que ceux qui croient en lui, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Mais si par exemple on arrive quelque part et que on a un doute, est-ce que à ce moment-là, le fait d'avoir le doute et de boire quand même, c'est défier Dieu ou pas ? Ou bien est-ce que c'est ne pas écouter le Saint-Esprit ? Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Moi, je pense que il est écrit dans Jean 16, 13, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Je pense qu'à chaque endroit, le Saint-Esprit nous conduira. Et donc, on doit être à son écoute et faire ce qu'il vient à l'esprit. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir des doutes, mais on ne peut pas échapper à ne pas manger. Là. Parce que, comment expliquer les circonstances font que on doit manger quand même. Donc là, on mange quand même et puis on compte sur Dieu. Voilà. Maintenant, il y a des endroits où on peut éviter, on évite. C'est cela. Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui tranche tout ça. Le Seigneur aussi peut permettre, parce qu'il veut montrer aux gens qu'il est tout-puissant. On mange et rien ne nous arrive. Mais ce que moi, je refuse personnellement, c'est les personnes qui savent que tel endroit n'est pas bon, mais parce qu'il y a une bonne cuisine, elles y vont quand même en disant « Dieu me protégera ». Non, là, c'est « tu vas par convoitise ». Voilà. Mais quand on est dans des circonstances où on ne peut pas échapper, et on consomme, mais quand on sait à l'avance et qu'on peut éviter, vaut mieux éviter, quoi. Nous continuons.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Amen, amen, amen. Voilà le psaume 91, c'est le psaume de protection du Seigneur. Beaucoup de gens le connaissent. Il y a toutes sortes de protections qui nous est promises en fonction de plusieurs malheurs. Hein. Voilà, vraiment, c'est écrit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Voilà, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Voilà, tout ça est donné. C'est vraiment un psaume extraordinaire. Voilà, lorsque nous sommes dans des pensées de peur, nous devons revenir sur ça. Nous allons lire le psaume 92, mais je souhaiterais qu'il y ait les gens de la musique. Voilà. Les psaumes, c'est quand même des chants aussi. Voilà. Jusque-là, on ne fait que lire. Est-ce que les gens du piano... Donc, puisque ce psaume nous parle du verset 2, « Il est beau de louer l'Éternel », je pense que certains connaissent ce chant-là qu'on chante ici, qu'il est beau de louer l'Éternel. Alors, pendant que les gens de la musique viennent, donc on va lire d'abord le psaume 92. Voilà. On lit en même temps et puis ils se mettent en place. C'est en ré mineur. Hein.
Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu.
Amen, amen.
Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité.
Voilà, bien aimé, un point très important, c'est le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est la force du buffle, c'est-à-dire que Dieu nous donne une force et que rien ne peut arrêter. Parce que quand un buffle passe, personne ne peut l'arrêter. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que, comme nous on a vécu dans les années 2000, où dans certaines églises, il y avait l'onction du buffle. Quelqu'un commençait à souffler comme un buffle en train d'avancer. C'est pas du tout ça. Ça, c'était des fabrications. On ne sait pas si c'était des démons ou de la chair. Mais c'est une force, au fait, qui fait que quand tu entreprends les choses, rien ne peut t'arrêter. C'est ça la force du buffle. Tu passes. Et on nous dit aussi au verset 80, le juste croissent comme le palmier, il s'élève. Verset 14, planté dans la maison de l'Éternel. Vous savez, ça appelle à la stabilité. Dieu nous plante. Les justes sont plantés, ils ne sont pas légers, ils ne vont pas, ce ne sont pas des girouettes. C'est des gens qui sont plantés dans un projet avec Dieu et ils produisent, voilà, comme des arbres. Tu es planté, tu produis. Ce ne sont pas des gens qui picorent à gauche, à droite et qui ne produisent rien. Non, tout ça, c'est les justes. Voilà, et le début, c'est qu'il est beau de louer l'Éternel, louange adressée à Dieu pour sa bonté. Voilà, nous allons chanter ce chant. Oh, qu'il est beau de louer l'Éternel.
Qu'il est beau de louer l'Éternel.
C'est le bon,
c'est le bon.
Le nom de notre Dieu.
C'est le bon, le nom de notre Dieu.
Annonçons le matin.
Annonçons le matin sa bonté. Annonçons le matin sa bonté,
sa fidélité. Psaume 93, mais on va chanter aussi dans le psaume 93. On va lire le psaume 93.
L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leurs voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables.
Amen.
La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps.
Pour toute la durée de temps. Voilà, donc ça c'est le psaume qui proclame la majesté de Dieu plus que des fleuves vomissants. Ça dépasse le bruit des fleuves. Voilà, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Il faut s'approcher de vrais fleuves pour sentir le bruit des cascades. Et il nous est dit, plus que la voix de grandes, de puissantes eaux, de flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. C'est ça notre Dieu. Bien-aimé, il faut avoir la conception de la grandeur de Dieu. Il ne faut pas servir Dieu comme juste un papier, un ticket qu'on met dans la poche. Non, il faut vraiment aller avec cette grande conception de Dieu qui est plus grand que les puissantes eaux. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Il est incomparable. Il est au-dessus de tout. Bien-aimé, tout ce qu'on dit là, ça concerne Dieu. Ça concerne Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver que nous, on soit à l'hôpital. Il peut arriver que nous, on soit emprisonnés. Il peut arriver que nous, on lutte avec un mal, avec un péché. Mais Dieu reste tel qu'on est en train de lire là. Et donc, il mérite qu'on le prie toujours avec foi. Il ne faut pas que nous réduisions Dieu à notre vécu. Il est au-dessus de ses vécus, puisqu'il est éternel. Il existait avant toi, avant que tu n'existes. Donc aujourd'hui que tu existes, tu ne peux pas, parce que tu connais des difficultés, réduire Dieu à tes difficultés pour ne pas l'adorer, pour ne pas glorifier son nom. Il faut qu'on comprenne, lui, il ne bouge pas. Il est ce qu'on vient de lire là. Est-ce qu'on peut relire encore le psaume 93?
L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leurs voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps.
Amen, amen. Bien-aimé, quand on voit la manipulation du nouvel ordre mondial aujourd'hui, notamment à travers le gouvernement français, on est comme abattu. Mais quand on lit de tels textes, on se dit non, 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 non. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. L'Éternel règne. Oui, il y a des questions? Oui.
Il y a un bien-aimé qui revient encore sur la contagion, qui dit, mais plutôt on a dit que il est écrit, tu ne seras pas atteint, alors que même dans l'assemblée, on a été atteint. Par rapport à la contagion.
Mais je pense qu'on a déjà répondu à ça, puisqu'on a dit que c'est encore. Le verset 10 est encore beaucoup plus fort, puisque le verset 10 dit aucun malheur ne t'arrivera. Or, les malheurs sont arrivés à Jésus lui-même. Donc, ça, c'est, on a répondu déjà en disant que quand quelque chose de négatif nous arrive, nous, au moins, on sait que ça vient de Dieu. C'est ça la différence. Alors que quelqu'un qui n'est pas avec Dieu est dans une logique de défaite, ça lui est tombé dessus. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisque la promesse est claire qu'un malheur direct ne peut pas nous arriver, quand ça nous arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. Ça nous permet d'avoir la paix et la foi dans nos prières. Donc les malheurs peuvent arriver à un chrétien, mais c'est voulu par Dieu. C'est ça la différence. Donc quand on lit de tels textes, ça nous donne de relativiser quand les malheurs nous atteignent. Donc on comprend que si je suis dans ce que je suis, Dieu l'a voulu. Et je l'avais dit, je crois, un des mardis précédents, que une des particularités des psaumes, c'est que les écrivains du psaume attribuent leur malheur à Dieu. C'est rare que vous les voyez, on n'a pas encore vu ça d'ailleurs depuis qu'on lit les psaumes, qu'ils disent, ah, c'est à cause de toi Satan. Il n'y a pas tout ça. Ils disent toujours, oh Dieu, regarde ce que tu nous as fait. Tu nous as délaissés. Tu nous as frappés. Et au fait, ils considéraient que Dieu seul pouvait les atteindre. C'est une foi que nous devons copier. Voilà. Et donc, c'est la même chose. La contagion peut nous atteindre, mais c'est voulu de Dieu. Voilà. Mais, oui, question.
Non, c'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire.
Mais avec le micro, ouais. Voilà. Tu rebondis avec le micro.
Ouais. D'accord, je disais que c'était juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est comme dans le cas de Job, quand il a été atteint par son malheur. Il ne l'a pas attribué à Dieu. Et bien que Dieu a consenti à ce que le diable puisse le toucher, mais c'était comme une sorte d'épreuve pour éprouver l'amour que Job avait pour Dieu. Mm-hmm. Et dans son malheur, il a perdu tout ce qu'il avait, sa richesse, ses enfants. Mais il ne s'est jamais plaint parce que Dieu...
Il s'est plaint de Dieu, mais pas de Satan. C'est ce qu'on est en train de dire. Il n'a pas considéré que ce malheur-là était étranger à Dieu. Lui, il attaquait Dieu directement. Il disait, mais Dieu, tu as fait ceci, tu m'as laissé. Voilà. Alors que, c'est pour dire que c'est vraiment la foi. Tu considères qu'aucun malheur ne peut t'atteindre. Si le malheur t'atteint, c'est Dieu qui le veut.
Mais Dieu, dans tout ça, il savait que Job, il aimait tellement que peu importe tout ce qui va l'arriver, il sera capable de surmonter cela.
Voilà.
Et en récompense de tout ce qu'il a vécu, Dieu a donné tout ce qu'il a perdu et encore beaucoup plus. Donc,
quoi en récompense? Toujours la grâce.
Par la grâce.
Voilà, la grâce de Dieu. C'est ça la leçon de Job. On voulait lui montrer que tout ce que tu avais avant, c'était la grâce. Ce n'était pas parce que tu étais pur, ce n'était pas parce que tu priais très bien, non. C'était la grâce. Et donc Dieu, dans sa grâce encore, va se manifester. Mais Job est aussi un exemple qui nous montre qu'il n'a jamais dit « Satan, le microbe, Covid ». Non, il a dit « Dieu ». Voilà. Le chrétien doit dire « Dieu », voilà. Pas « Covid. Non, c'est Dieu, voilà, qui a la maîtrise de tout. C'est ce que le psaume 93 nous rappelle encore. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté, ça veut dire quoi? Mis à part, Dieu ne fait pas d'erreur. C'est ce que la sainteté veut dire. Donc, il est mis à part, il est unique, il n'est pas comme les autres, il ne fait jamais d'erreur. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Donc, nous allons chanter un chant intitulé « Pour la durée des temps ». Voilà, pour la durée. Enfin, comprends.
Les
Seigneur, nous te proclamons, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. Tu existais avant le péché. Tu existais avant Satan. Tu es, tu étais et tu viens, Seigneur. Tu es plus puissant que toutes les galaxies réunies. Tu es plus fort que tout cela, plus grand que tout cela. Nous venons te célébrer, te dire que tu es Dieu. Tu règnes. Tu règnes. Rien n'échappe à ton contrôle. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons eu la sensation d'être submergés par les forces des ténèbres. Nous avons eu la sensation d'être dominés par les forces des ténèbres. Mais Seigneur, ta parole nous montre que tu règnes. C'est toi le véritable roi. C'est toi qui règnes. Rien n'échappe à ton contrôle. Merci pour cette consolation de ce soir. Seigneur, donne-nous la paix par rapport aux choses que nous vivons aujourd'hui. Que nous soyons dans la paix. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais dans 4 mois, on fera comment? Dans 5 mois, on fera comment? Seigneur, ta réponse est claire. Tu règnes pour la durée des temps. Et que nous devons nous confier à toi, en toi seul, pour tout. À toi la gloire, la louange, Papa, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.